à l'émission L'Histoire Permanente et Continue.
Et aujourd'hui, donc, Cédric s'en consacré à France Fanon.
Alors, c'est France Fanon pour débutants. On a un invité, Aziz, qui est venu témoigner aussi, en tant qu'Algérien. France Fanon pour débutants, parce qu'il y a des gens qui connaissent France Fanon, mais là, ça s'adresse plutôt aux auditeurs qui connaissent peu ou pas France Fanon.
D'accord.
Alors là, on va passer d'abord deux extraits. Alors, premier passage, c'est pas d'Aura de Galère, évidemment, hein. C'est tiré d'une présentation de France Fanon contre toute alignation, un portrait réalisé par Camille Renard, qui a été diffusé de France Culture le 11 septembre 2020. Alors, on va entendre la voix de France Fanon lors du Congrès international des écrivains et artistes noirs en 1956. Alors, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des bandes enregistrées de France Fanon hein, sur YouTube et Internet. C'est assez difficile. Voilà. Le témoignage d'Alice Cherki, ancienne élève de Fanon et autrice d'une biographie le concernant, et de Jean Cafla, professeur au Trinity College Cambridge, spécialiste d'histoire et de philosophie. Alors, on va écouter ce documentaire de 5 minutes pour avoir un petit aperçu de ce personnage-là.
Psychiatre révolutionnaire, écrivain fulgurant, acteur des indépendances africaines, Frantz Fanon a combattu toute forme d'aliénation jusqu'à sa mort à 36 ans, quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie, à laquelle il avait œuvré. Son parcours foudroyant commence en Martinique, dans une famille métisse modeste, et s'accélère quand il s'engage en 1943, à 17 ans, pour défendre la France. Chaque fois que la liberté et la dignité de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs ou jaunes. Mais Fanon déchante. Prêt à sacrifier sa vie, il est rejeté, humilié à cause de la couleur de sa peau. À 24 ans, il veut témoigner de son expérience d'homme noir dans un essai majeur. Peau noire, masque blanc. Le nègre n'existe pas, pas plus que l'homme blanc, écrit-il. Il y mobilise psychologie, philosophie, linguistique, littérature pour analyser la névrose collective créée par la colonisation. Pour lui, même la culture est un acte politique.
Le blues, plainte des esclaves noirs, est présenté à l'admiration des oppresseurs. C'est un peu d'oppression stylisée qui revient à l'exploitant et au raciste.
Grâce à son statut d'ancien combattant, Fanon obtient une bourse pour étudier la médecine. Sa thèse de psychiatrie porte en germe sa critique de toute forme d'aliénation. C'est le regard porté par l'autre qui nous rend étrangers à nous-mêmes.
C'est l'aliénation non seulement économique, culturelle, mais aussi subjective, individuelle. Il voulait la libération de l'homme, sur tous les plans. C'est ça son originalité qu'on retrouve aujourd'hui.
C'est dans un hôpital algérien, où il est nommé par hasard, que Fanon expérimente sa psychiatrie novatrice.
Pour lui, la folie est une pathologie de la liberté, c'est-à-dire un mode d'être déterminé par des automatismes. Et le travail du psychiatre, c'est de rendre à l'individu sa liberté.
Il abolit la camisole, ses thérapies renouent avec des pratiques culturelles ancestrales, jeux, chants, contes, et il se bat contre les conceptions médicales racialistes, alors dominantes.
Le racisme vulgaire, primitif, simpliste, prétendait trouver dans le biologique la base matérielle de la doctrine. Forme comparée du crâne, dimension des vertèbres, etc. Cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement.
En Algérie, Fanon continue à observer l'anéantissement des colonisés et comprend que les traitements psychologiques ne suffiront pas.
Exploitation, torture, razzia, racisme se relaient à des niveaux différents pour littéralement faire de l'autochtone un objet inerte entre les mains de la nation occupante.
Dès 1954, il s'engage auprès du Front de Libération Nationale. Menacé, expulsé, il renonce à la nationalité française et s'exile à Tunis, d'où ses tribunes retentissent dans le monde entier. Il prône le panafricanisme. Son influence sur les indépendantistes grandit lorsqu'il devient ambassadeur du gouvernement provisoire algérien pour l'Afrique subsaharienne. Pour lui, la quête de liberté exige de tout lui sacrifier. L'insurrection est un devoir, quitte à user de la violence.
C'était de dire que finalement la tactique de la décolonisation non violente était sans doute dépassée. Il avait l'expérience de la guerre d'Algérie. Et puis, un peuple qui s'est libéré lui-même est un peuple qui ne sera pas asservi ou qui sera plus difficilement asservi à l'avenir.
Si les derniers doivent être les premiers, ce ne peut être qu'à la suite d'un affrontement décisif et meurtrier des deux protagonistes.
Les damnés de la Terre, son chef-d'œuvre, est préfacé par Sartre. Laminé par une leucémie, ses ultimes forces sont vouées à alerter sur la confiscation des indépendances par les bourgeoisies nationales et le culte des leaders. Inhumé en Algérie, il y a droit à des funérailles nationales. Longtemps occulté en France, son influence sur les activistes, penseurs ou artistes est immense aujourd'hui pour inventer une liberté nouvelle. France Fanon, Aimé
Césaire, Eugène Monnat. Un homme libre est un homme qui n'est pas déterminé par un héritage. Donc il y a une forte critique de toute idée d'identité comme forme de servitude pour Fanon.
Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence.
Ce que vous avez entendu là, c'était un extrait de France Culture qui était tiré d'une émission réalisée par Camille Renard qui était diffusée le 11 septembre 2020. Alors je rappelle quand même pour les auditeurs que sur France Culture, il y a pas mal d'émissions sur France Fanon. On peut aussi les retrouver plus longues. L'avantage de celle-ci, c'était un petit résumé sur France Fanon pour ceux qui ne connaissaient pas France Fanon, qui comprenaient mieux. Et alors là, à côté, un deuxième enregistrement, c'est l'interview de Mathieu Glissant, alors qui est co-réalisateur avec Audrey Moron du documentaire France Fanon, trajectoire non révoltée, qui était interviewé sur France 5 en novembre 2020. Alors, Mathieu Glissant, il faut savoir qu'il est le fils de l'écrivain martiniquais Édouard Glissant, qui est aujourd'hui décédé.
Oui,
enfin, le père, bien sûr. Sa main est aussi co-réalisateur avec Audrey Morion du documentaire Vichy dans les colonies, diffusé en 2023. Alors, on va passer cette interview de Mathieu Glissant complète, le premier extrait qu'on a écouté. Voilà, là, c'était tiré France 5, qui a été diffusé en 2021.
Voilà, Mathieu Glissant, c'est vrai qu'on a très peu d'images de lui, vous le dites dans ce documentaire, France Fanon, qui est d'ailleurs pas, on le répète, encore aujourd'hui forcément connu du grand public. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première chose, c'est qu'il a été quand même censuré en France pendant assez longtemps. Contrairement aux États-Unis, où il a connu en fait une postérité, ses écrits en fait ont été étudiés, ont été utilisés par des mouvements révolutionnaires comme ceux du Black Panther Party.
Il a été aussi censuré aux États-Unis, il me semble.
Il a été censuré aux États-Unis, mais si vous voulez, il y a eu quand même une sorte de reprise de Fanon aux États-Unis.
Alors qu'en France,
non. Je pense qu'il a été un peu tué dans l'œuf en fait en France, en tout cas ses écrits. Et puis aussi, il faut dire que c'était Les damnés de la Terre, hein, son dernier ouvrage, qui parlait de la guerre d'Algérie. C'était au moment de la guerre d'Algérie, c'était tout frais, c'était juste avant l'indépendance de l'Algérie. Et donc en France, c'était des sujets qui
très sensibles,
très sensibles, qui levaient les passions. Quoi.
Quel a été son apport majeur, sa pensée philosophique, pour nous raconter l'impact de la colonisation sur le colonisé, sur l'être humain ?
Alors son apport principal, ça a été de parler d'aliénation. C'est-à-dire que Fanon était psychiatre, et il a ensuite été aussi combattant, révolutionnaire, etc. Et il parlait d'aliénation à la fois intérieure et extérieure. Il parlait de l'effet de la colonisation comme un système qui nous rendait étrangers à nous-mêmes et nous ôtait non seulement la liberté extérieure, c'est-à-dire par l'exploitation des corps, etc., mais aussi la liberté intérieure, c'est-à-dire la liberté de devenir qui on voulait être, la liberté d'avoir des possibles, un avenir.
Et d'ailleurs, je crois que c'est Patrick Chamoiseau, l'écrivain, qui dit à un moment donné, le colonisé devient un muscle.
Alors, c'est pas Patrick Chamoiseau.
C'est pas Patrick qui le dit, je crois.
C'est Benamar Médiane.
Oui, ancien du FLN.
Ancien du FLN, qui est un écrivain aussi, un penseur universitaire, et qui dit que oui, le colonisé devient un muscle. En Algérie, en fait, il avait cette impression-là. Il parle aussi de son père, où il dit qu'il avait l'impression que son père était un muscle.
Ouais. Il a déjà conscience de la colonisation assez tôt, d'ailleurs, à la Martinique. Quand il arrive en France, à Paris, il voit ses publicités et la manière avec laquelle on représente les Noirs à l'écran, il est heurté, mais le choc, ça va être l'Algérie et Blida.
Il y a plusieurs chocs, en fait, dans la trajectoire de Fanon. C'est aussi pour ça qu'on a ce titre pour le film.
La trajectoire.
La trajectoire d'un révolté. C'est que, en fait, en 36 ans de vie, Fanon va traverser tout le monde colonial et à chaque étape, il va y avoir une révélation, en tout cas un moment de bascule. Et la première étape, c'est quand il s'engage à 17 ans, quand même, pour les France de Libération Française pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il va, depuis sa petite île, la Martinique, il va, avec quelques camarades, libérer la France.
On voit aussi que les combattants sont égaux au front dans la guerre, mais qu'ils ne le sont pas totalement après dans la reconnaissance de l'effort fourni dans la guerre.
Exactement. Et donc ça, c'est la première fois quand il arrive en Europe. Il y a le traumatisme de la violence, bien sûr, de la guerre, tout simplement. Et puis il y a aussi ce qui le marque, c'est cette désillusion. Il part avec des idéaux, il part avec peut-être des idéaux un peu naïfs, si vous voulez. Et il a cette grande désillusion qui est provoquée par la découverte du regard des Européens sur lui.
Et sur la désaliénation et l'aliénation, lui, c'est vraiment en tant que psychiatre, hein, à Blida, quand il arrive dans cet hôpital psychiatrique, il se dit, ce ne sont pas des patients psychiatriques comme les autres, c'est vraiment l'impact de la colonisation en Algérie qui leur donne cette pathologie. Et c'est la trajectoire de Frantz Fanon. Peut-être juste, Mathieu Glissant, quelques mots sur l'impact aux États-Unis. Bien sûr, les Black Panthers vont se revendiquer de lui et dire, on vit ce que les Algériens ont vécu par rapport à la colonisation française. Mais Frantz Fanon a alerté très tôt aussi sur les indépendances et ce qui allait se passer après. On voit notamment Patrice Lumumba qui est assassiné à l'époque.
Oui, c'est en fait Fanon et ce qui le hantait, je pense, dans ces dernières années, c'était l'avenir de la révolution. Pour lui, la révolution, c'était pas simplement la révolte armée et le renversement politique. C'était un processus long de libération qui devait durer et qui concernait tous les hommes. Et donc, ça devait être aussi un mouvement du peuple, pas un mouvement d'une élite ou d'une caste. Et donc, bien sûr, il avait peur de cette trahison post-décolonisation qui, malheureusement, a été le cas.
Voilà, donc là, c'était Mathieu Glissant, donc voilà, qui intervenait là-dessus. Alors maintenant, on en a dans nos studios, bien sûr, Aziz Ben Sadek, qui est co-président d'Heure de Galère, mais qui est aussi algérien de naissance, qui a vécu en Algérie pendant longtemps, même après la période de l'indépendance, donc il connaît bien, pas connu la guerre d'Algérie, mais peut-être trop jeune, mais au moins la période après l'indépendance. Question que je vais poser à Aziz, c'est évidemment Frantz Fanon et l'Algérie hier et aujourd'hui. Qu'en est-il à l'heure actuelle?
Oui. Merci pour l'invitation. Peut-être que je vais raconter une anecdote à propos de Fanon et moi, on va dire. Hein.
Ah.
Je ne vais pas me comparer à Fanon. Hein.
Non.
En fait, moi, j'ai découvert Frantz Fanon par une prof de français.
Ah,
c'était ma prof de français en classe de première.
D'accord.
C'était en l'année scolaire 1972-73.
En Algérie, je suppose.
En Algérie, oui, bien
sûr. Vous savez qu'il y avait des Français qui les enseignaient, oui.
Oui. Cette prof de français-là était en lien avec le directeur de ce qu'on appelle l'hôpital Frantz Fanon, l'hôpital psychiatrique où il a travaillé. Et à cette époque-là, donc, cette prof de français commençait à nous parler justement de Frantz Fanon. Et un jour, elle nous a amenés à l'hôpital, justement, à l'hôpital Frantz Fanon, qui se trouvait à quelques 30 kilomètres de là où on a connu. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert après le
personnage.
Le personnage, après tous les livres, etc. Et puis, Frantz Fanon, c'est donc dans l'Algérie post-indépendance, il y a ce qu'on appelle des boulevards. Boulevard Frantz Fanon, lycée Frantz Fanon, collège Frantz Fanon, etc. Donc, c'est dans les grandes villes, c'est quand même quelque chose qui est connu.
C'est par contre, qui a marqué alors.
Oui, par contre, il y a quelque chose qui a une rupture entre l'Algérie et Frantz Fanon, c'était la manière de soigner. La manière de soigner. Frantz Fanon, donc, qui a fait ses armes auprès de
psychiatre,
ce qu'on appelle François Tosquelles.
Oui, là, qui était novateur en psychiatrie.
Voilà psychothérapeute institutionnel, partir du vécu de personnes et qu'on essaie d'effacer cette hiérarchie entre le soignant et le soigné.
C'est ça,
que ce soit un groupe. Donc, il a appris à faire ça. Et ce qu'il a essayé d'expérimenter avec succès, il faut le dire.
Oui.
Donc, dans le peu de temps qu'il a passé à l'hôpital psychiatrique entre 53 et 56. Ouais. Il se trouve qu'il a à travers ça et à travers donc, l'aliéné, en fait, celui qui souffre d'une. Les souffrances mentales sont liées à un système de domination aussi.
D'accord.
Il a, à travers ce qu'il a fait, donc c'est là où il a commencé à travailler sur cette affaire-là, sur le comment on l'appelle. s'appelle le
colonialisme.
Donc, l'ampleur de la tâche est telle que tout seul, il ne pouvait pas faire quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il s'est vu comme quelqu'un qui doit être peut-être utile ailleurs, et plus utile ailleurs plutôt.
Oui, mais d'accord.
Et c'est pour ça que tout son engagement, dans son engagement, dans ce qu'on appelle pour attaquer la racine du mal.
Le contexte politique aussi, hein, parce que c'était le début de la guerre d'Algérie.
C'est le début de la guerre d'Algérie. On découvre quelqu'un qui est dans un hôpital, qui la journée soigne des gens qui sont les victimes de cette domination. Et de l'autre côté, le soir, on le sollicite parce que c'est quelqu'un quand même à Blida, un noir à Blida, même temps. Quelqu'un qui est assez, d'après les infirmiers qui témoignent à cette époque, qui a raconté à l'extérieur comme quoi c'est quelqu'un qui est différent des autres médecins. Et d'où ce qu'on appelle la sollicitation de la part du FLN du coin pour lui dire est-ce que tu peux... Effectivement, ça l'a poussé à y aller. Et pour revenir à cette rupture entre la manière de soigner de François Fanon, on l'a perdu à partir de 63-64. Il a fallu attendre les années de sang, les années de 90, d'accord, les années de terrorisme, pour qu'un certain nombre de psychiatres commencent à revisiter les méthodes de François Fanon.
D'accord.
Et actuellement, il y a un hôpital à Constantine qui utilise ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle développée par François Toscaïès, professeur de Fanon.
Oui.
Donc du coup, voilà donc la rupture. Il y a autre chose aussi dans Fanon, c'est sa rupture avec ce qu'on appelle les bourgeoisies nationales, on va dire.
Oui, ou les élites nationales.
Voilà. Dans Les Damnés de la Terre, il a attiré l'attention justement pour dire attention, ce que vous avez fait là, c'est une première phase de ce qu'on appelle de décolonisation.
Oui.
Il doit y avoir une seconde phase. Oui. Cette seconde phase doit passer par le fait qu'on arrive à que les pays africains nouvellement indépendants dépassent cette indépendance formelle pour arriver à ce qu'on appelle à une indépendance réelle qui passe justement par une indépendance économique, une indépendance
économique.
Voilà. Non, on n'en est pas encore, mais il y a quelques prémices quand même qu'il a essayé. Quoi. Voilà, donc cette rupture-là, donc, c'est une deuxième rupture de Fanon. Et nous, ici, dans l'immigration, il faut dire que Fanon, avant Peau noire, masque blanc, il a écrit un petit fascicule qui s'appelle Le syndrome nord-africain. Syndrome nord-africain, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle de son stage en psychiatrie dans la région parisienne, il découvre que les médecins qui soignent les nord-africains, c'est de manière tout à fait ce qu'on appelle lapidaire comme ça, ils accueillent des gens, la personne arrive chez le médecin et lui dit j'ai mal.
Oui.
T'as mal où ? Mais j'ai mal. J'ai mal quelque part. Et à cette époque, qu'il a découvert à travers ce qu'on appelle des comptes rendus de médicaux sur un certain nombre de Nord-Africains, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, à savoir c'est des fainéants, ils ne veulent pas travailler, etc. Oui. Ils s'inventent des choses.
Plein de préjugés racistes. En même
voilà. Parce qu'on disait aussi des esclaves noirs aussi, qu'ils étaient des fainéants, qu'il fallait les faire travailler au fourré pour les travailler. Mais à l'époque, il me semble que les psychiatres, les psychiatres, ils disaient que il y avait des races supérieures, des races inférieures, et que le cerveau d'un Algérien ne passait pas l'âge mental d'un enfant de 13 ans.
Voilà,
ça avait été dit pendant très longtemps, aux années 80. Bon, après, actuellement, je pense qu'il n'y a aucun médecin en France qui défend ce genre de théorie-là. Mais enfin...
Encore, ça dépend où tu vas.
Et donc, dans ce qu'on appelle, dans ce petit livret qui s'appelle Le syndrome africain, il dresse un constat sévère, justement, sur la manière de soigner de ce qu'on appelle des Nord-Africains qui souvent viennent des bouis-bouis. Dans les banlieues parisiennes, à Nanterre, dans
les fameux bidonvilles.
Dans les bidonvilles de Nanterre, etc. Donc, du coup, ça nous interpelle en tant qu'enfants issus de l'immigration, de cette immigration nord-africaine.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à Fanon, non pas parce qu'il y a un certain passé, c'est parce que Fanon est encore actuel.
Oui,
Fanon est encore.
C'est quelqu'un qui a vu un peu la domination des classes, mais d'un point de vue psychiatrique.
Voilà.
Ouais, c'est la nouveauté. C'est que Marx, lui, c'était d'un point de vue économique. Lui, il le voit d'un point de vue psychiatrique. Disons qu'il est un peu un complément de Marx, disons, on peut dire.
Voilà. Et tu prends l'exemple de ce qu'on appelle d'une association qui s'appelle les Médecins du Monde.
Oui.
Et un certain nombre de responsables ici à Marseille à l'époque qui montraient qu'effectivement que cette souffrance mentale-là, qu'ils découvrent dans ce qu'on appelle chez les SDF, Genève, qui se trouve du côté de ce qu'on appelle la Madargueville, mm-hmm. il découvre qu'elle est intimement liée aux conditions sociales de la personne.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lien indéfectible entre cette souffrance-là et la misère sociale dans laquelle se retrouvent ces personnes-là. Et les personnes qu'on emmène, par exemple, à Édouard-Toulouse, donc en haut...
Je connais très bien, j'ai habité à côté.
Voilà.
papa a été interné.
Tout ça. Donc, et ces personnes-là, des médecins du monde, ont développé ici, à ce Radio-Galère, à un certain moment, tout un travail autour de ce qu'a fait Fanon, pour dire que ce lien-là entre misère sociale et souffrance mentale, quoi.
Voilà,
et
oui,
maladie
c'est
mentale,
ça.
Quoi. Voilà,
oui, c'est ça qui est intéressant chez Fanon, et ne concerne pas que les colonisés, parce que la misère mentale concerne tout le monde,
bien
y compris actuellement, dans un monde qui nous rend plus en plus névrogènes. Et d'ailleurs, si on demande, on parle de trafic de drogue aussi, mais si ça, le trafic de drogue fonctionne et marche et enrichisse, parce qu'il y a des consommateurs.
Mmh.
Et
ah, oui,
pourquoi il y a des consommateurs,
voilà, c'est supporter le monde dans lequel on vit.
Voilà. Et c'est vrai que François Fanon vient à un moment où on déconstruit toute la pensée coloniale de l'infériorité et supériorité de race. Bon, il n'est pas le seul, il y a d'autres aussi qui ont commencé à dire, attendez, là, tout ça, là, l'histoire des cerveaux, des crânes, tout ça, des peuples supérieurs, des peuples inférieurs, c'est de la bêtise. D'ailleurs, après l'horreur des camps nazis, là, on commence un peu à se dire, bon, les notions de race, ça amène à ça. Il faut un peu réfléchir là-dessus, et que là, il y a eu toute une pensée qui commençait un peu à déconstruire tout la pensée coloniale sur le plan médical, psychiatrique, et qui dit, mais attendez, les races, c'est les mêmes, et en réalité, des vos bêtises, c'est les conditions, voilà, il faut voir un peu différemment. Et pas sur mesurer sur la taille du crâne.
Bien entendu. الغربة كثر صدع فيا في قنية ذي ما طاونا روح غدوة دري ذات غنية روح غدوة دري ذات غنية الحباب الاحباب ارضا ونينا يبضي يد الخضار نصاح يا لا 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 يثمر تنبذ ينفي غلا يا نبي يا يا لا لا يا لا لا يا لا de Fanon, qui se trouve à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, parce que quand il est décédé, il a demandé à ce qu'il soit enterré en Algérie. C'était encore la guerre.
Oui, c'était encore la guerre. Et donc l'Algérie n'était pas encore indépendante.
Et on l'a fait rentrer, justement, clandestinement, en pleine nuit. Oui. Ils l'ont enterré à quelques...
Oui, je crois qu'il est mort aux États-Unis, d'ailleurs.
Il est mort aux États-Unis le 6 décembre 2011, suite d'une leucémie. Donc il a été enterré vers le 12-13 décembre, là. Et puis, bon, il y aura un film qui a été fait par des amis, un film amateur, qui montre cette visite-là, voilà. Et on finit avec un chant à cappella, un chant des montagnes de Kabylie, parce qu'il a visité à certaines époques. Vous savez, bon, dans les années 59-60, c'était les grandes opérations militaires déclenchées, ce qu'on appelle les grandes opérations, les opérations Challes, de Maurice Challes, le général qui était le commandant de l'armée en Algérie.
Qui a viré l'OAS après.
Attends, je pense que Maurice Challes n'a pas été au l'OAS, c'est Salon.
J'avais un doute, il me semblait aussi.
C'est Salon qui est carteron de généraux.
C'est lui, bon, il a été, mais il n'a pas été à l'OS. Voilà, il a été dans le carteron de généraux, mais il n'a pas été
à l'OS. D'accord.
Comme Salon.
Oui,
et
d'accord. Oui, c'est ce qui a fait le tentative de coup d'État en 61, d'ailleurs, la même année où Franck Fanon est mort.
C'était en avril 61.
Où il y avait que De Gaulle était arrivé au pouvoir avec l'Algérie française, puis après l'autodétermination qu'Algérie algérienne. Voilà. Et d'ailleurs, De Gaulle était le seul président de la République à avoir plusieurs tentatives d'attentat contre lui, et tous de la part de l'extrême droite de l'OS. Hein.
Bien sûr,
c'est,
oui.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc. Pour cet éclairage. Alors là, c'était une première partie consacrée à Fanfanon pour débutants, oui, parce que bon, c'était indispensable de savoir ça. Et après, on passera peut-être une seconde partie la semaine prochaine avec des compléments sur Fanfanon, voilà, pour l'émission L'histoire permanente et continue, animée par Éric Lebreu sur Radio Galère.